VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, 13h à Kigali. Les Rwandais se rendent aux urnes vendredi pour choisir leur président. Trois candidats sont en lice, dont le président sortant Paul Kagame, Franck Habineza, leader du Parti Vert, et Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Monsieur Kagame, homme fort de Kigali, est donné largement favori. Sur le déroulement de la campagne, Idriss Fall a joint Jean-Claude Ntezimana, le secrétaire général du Parti Vert à Kigali.
Jusqu'à maintenant, ça va. Nous sommes libres. Nous faisons nos activités de la campagne partout dans les districts du pays sans avoir de difficultés. Mais au commencement, on avait beaucoup de problèmes dans la province de l'Ouest ainsi que dans la province de l'Est. Nous avons rencontré des problèmes.
C'était quel genre de problème?
L'endroit où on avait commencé, c'était dans le district de Lucize. Les gens avaient peur. On ne savait pas pourquoi. Mais on a aussi le comité du parti. On a essayé de les appeler. Mais le jour J, ils ont coupé leur téléphone mobile. On a trouvé l'un d'eux. Il a dit qu'ils ont peur. Ils avaient peur par les différentes intimidations. Arrivant là-bas, on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient là pour écouter notre candidat.
Est-ce que tous les candidats ont le même accès aux médias?
Nous avons le même accès sur les médias publics, les médias de l'État. Les journalistes viennent. Il n'y a pas de discrimination sur les médias publics.
Tout le monde dit que c'est Paul Kagame qui va gagner le scrutin.
Disent toutes ces choses-là. Ces gens-là, je pense, sont des gens qui sont les sympathisants de Paul Kagame. Ce ne sont pas tous les gens qui habitent au Rwanda. Beaucoup de gens maintenant disent que c'est nous qui va gagner parce que si on rencontre les gens ici à ville de Kigali, sur les motos, quand vous parquez votre véhicule, les gens viennent là où le candidat s'arrête. Il y en a beaucoup de gens qui entourent le véhicule et qui disent qu'ils vont voter Franck Habineza.
Et vous pensez que le scrutin va se dérouler de manière transparente?
Jusqu'à maintenant, ça va. Comme je t'ai dit en commencement, ça n'était pas bien. Parce que même dans la province de l'Est, ainsi que à Niagatale, ainsi à Kilehe, le leader du gouvernement local nous a empêchés de rouler nos campagnes à l'endroit qu'on avait demandé, qu'on avait informé le maire de district. Ils nous ont refusé le matin, une chose qui n'est pas acceptable, que la loi dise que si on refuse pour le candidat de ne pas dérouler la campagne dans l'endroit qu'ils ont communiqué, il faut bien leur dire avant 12h. S'il n'y a pas toutes ces durées de 12h, ce n'est pas acceptable. Mais à Gatibo, ils ont respecté le temps, mais à Niagatale, nos personnes nous ont dit qu'ils ne sont pas acceptés d'entrer sur le terrain qu'on avait prévu.
Jean-Claude Ntezimana, le secrétaire général du Parti Vert à Kigali. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, clame son innocence. Elle a promis de regagner son pays pour faire face aux accusations de corruption. Les précisions de Solange Nyamolissa.
La justice du Malawi a émis un mandat d'arrêt contre Madame Banda pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent. L'ancienne présidente qui vit ici aux États-Unis aurait siphonné des millions de dollars du trésor malawite dans le scandale dit du cash gate qui a éclaté en 2013. Plusieurs responsables gouvernementaux et hommes d'affaires sont actuellement en prison en rapport avec cette affaire. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, l'ancienne présidente assure avoir été la première dirigeante du Malawi à avoir mis sur pied une commission chargée d'éradiquer la corruption. Elle a affirmé n'avoir pas été mise en cause par l'audit qui a épinglé nombre de ses collaborateurs. Président du Malawi de 2012 à 2014, Joyce Banda a quitté le pouvoir après sa défaite électorale face à Peter Mutharika. Elle s'est installée peu après ici aux États-Unis et travaille pour le centre Woodrow Wilson et le centre pour le développement mondial, deux cercles de réflexion de Washington.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24 heures sur 24.
Insécurité au Mali, la psychose s'est emparée de Bamako, la capitale. Les actes de vandalisme et les braquages ont fait leur apparition dans le quotidien des résidents de la capitale malienne. Siaka Diamoutene, journaliste, tire la sonnette d'alarme.
L'attaque qui s'est produite devant les chaises de l'Ecobank, jusqu'à présent, l'enquête n'a pas abouti. On a toujours ouvert des enquêtes, mais ça n'aboutit pas. Bon, il faut qu'on nous dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, vraiment, ne se sentent plus en sécurité. Il y a une psychose qui règne dans la capitale, vraiment, il faut qu'on arrête. Au point que certaines personnes sont en train de dire qu'ils vont s'armer. Et ça n'honore pas le Malien. Ça mène vers le chaos. Bon, l'État est interpellé et il est responsable.
Circa Diamantone, journaliste malien. La tradition du conclave des Yali à Washington, respectée encore cette année, les jeunes leaders africains de demain sont réunis dans le cadre de la Young African Leader Initiative, le programme Yali qui permet à 1000 jeunes africains de venir échanger leurs expériences ici aux États-Unis pendant quelques semaines. Chacun d'eux a donc passé 6 semaines dans les universités américaines pour se former à de grandes thématiques telles que le leadership, le management de projets ou encore la collecte de fonds. La Sénégalaise Florence Diarra a eu l'opportunité d'aller à San Diego, en Californie. Cette jeune entrepreneuse de 29 ans, elle n'en revient toujours pas, de l'état d'esprit et de la confiance des Américains.
Les Américains sont développés, mais c'est d'abord un développement psychologique. Un petit Américain, tu le vois, tu sens cet art de développement, il est confiant. Nous, les Africains, on peut être leader, mais des fois, on a peur de la pression sociale. Et je vois qu'aussi, les Américains sont ponctuels. Une des choses que je veux changer, back home, si je retourne, ça, je veux changer ça d'abord dans ma petite entreprise. C'est ce qui se répercute dans notre retard en matière d'économie, en matière culturelle.
Florence Diarra du Sénégal. Le développement de l'Afrique passe par les Africains eux-mêmes. Fleur Alexia Mabingui en est convaincue. Elle est médecin en Centrafrique. Elle retourne donc à Bangui, transformée, comme elle explique, à VOA Afrique.
Ça a été une ouverture. C'est comme si j'avais un voile au visage. Ça m'a ouvert en fait des perspectives sur beaucoup de choses. L'Afrique, en fait, ce n'est pas un continent perdu. Il y a toujours beaucoup à faire en fait là-bas. Et qu'on n'a pas besoin de partir ailleurs. On peut rester chez nous pour pouvoir le développer.
Docteur Fleur Alexia de Centrafrique. Des associations des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude autour de l'état de santé d'un membre du mouvement de contestation dans la région marocaine du Rif, hospitalisé lundi, un mois après avoir entamé une grève de la faim. Rabi Elablak était incarcéré depuis fin juin à la prison Oukacha à Casablanca. Ce militant de 34 ans avait immédiatement entamé une grève de la faim pour réclamer sa libération. Il avait été arrêté pour avoir participé aux manifestations pacifiques dans sa ville d'Al-Oseima, réclamant le développement de la région du Rif. Le Sénat des États-Unis a confirmé hier à une écrasante majorité la nomination de Christopher Wray à la direction du FBI, la police fédérale américaine. Le choix de cet ancien juriste du département de la justice a été approuvé par 92 voix contre 5. Christopher Wray avait été proposé par Donald Trump début juin, un mois après le limogeage de James Comey sur fond d'enquête du FBI sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne du président républicain et la Russie lors de l'élection de l'année dernière. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a envoyé hier le message suivant à la Corée du Nord: nous ne sommes pas votre ennemi, et cependant que la Maison-Blanche continue de souligner que toutes les options sont sur la table pour mettre un terme au programme nucléaire et missiles balistiques de Pyongyang. Lors d'une rare apparition pendant un briefing du département d'État, M. Tillerson a déclaré que les États-Unis ne sont pas à la recherche de changement de régime.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
5 hommes et femmes du cercle rapproché du président vénézuélien Nicolas Maduro vont piloter la rédaction de la nouvelle constitution parmi les 545 membres de l'Assemblée constituante élue dimanche. Maduro assure que l'Assemblée constituante apportera stabilité politique et économique au pays secoué par des protestations anti-gouvernement qui ont fait plus de 120 morts en 4 mois. Mais l'opposition, qui a boycotté le scrutin, refuse de la reconnaître et dénonce une fraude qui va instaurer une dictature. L'opposition a d'ailleurs décidé de repousser d'aujourd'hui à demain, jeudi, la manifestation qu'elle avait prévue d'organiser afin qu'elle coïncide avec l'installation de l'Assemblée constituante. Les talibans ont revendiqué aujourd'hui une attaque à la voiture suicide contre un convoi de l'OTAN près de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, qui a fait des victimes, selon un porte-parole de la coalition. Un commerçant présent, Ahmad, a rapporté à l'AFP avoir vu 3 corps sortis d'un blindé, précisant que le convoi comportait 3 véhicules au total quand elle a été attaquée aux environs de midi. Et Michel Temer, premier président brésilien en exercice, formellement accusé de corruption au pouvoir depuis un an, risque aujourd'hui de perdre son mandat auquel il s'accroche avec pugnacité. Il fait face aujourd'hui à un vote au Parlement qui doit décider s'il donne suite ou non à une procédure pouvant lui coûter son mandat. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.